Radio Cité Genève, bienvenue dans votre magazine Rencontre. Nous sommes aujourd'hui avec l'autrice suisse Muriel Sibilia.
Radio Cité Genève.
Karine Paulien.
Muriel Sibilia, pour vous présenter, vous êtes journaliste, vous êtes autrice. On vous avait rencontré il y a quelques années en arrière pour votre livre « Côté nuit, côté soleil, des jeunes racontent leur traversée du cancer ». Vous étiez venue pour cela à Radio Cité Genève, interviewée par Gilles Soulac. Et là, on vous retrouve pour un nouveau livre, toujours sur cette thématique de la maladie, de la difficulté, du handicap. Ça s'appelle « Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades ». Malade, c'est paru aux éditions Slatkin. Moi, ce que je voudrais savoir avec vous tout d'abord, Muriel, c'est quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Alors, il y a eu deux éléments. Le premier, ça a été une jeune fille qui m'a contactée à propos du premier livre et qui voulait en faire son sujet de mémoire pour sa maturité. On a eu un interview ensemble et puis à la fin, je lui ai demandé pourquoi un sujet qui était quand même assez lourd intéressait une jeune fille de 17 ans. Et là, elle m'a évidemment expliqué que son petit frère, son grand frère, avait eu un cancer. Et ce qui m'a beaucoup frappée à ce moment-là, c'est qu'elle s'est mise à parler, je ne pouvais plus l'arrêter. La deuxième chose, j'ai reçu le livre d'un ami qui était avec une dédicace. La dédicace s'adressait à mon mari, à moi-même, à ma fille. Et il se trouve que j'ai deux filles. Donc cette disparition de ma deuxième fille sur cette dédicace a été vraiment une sorte d'électrochoc.
Ouais, juste pour expliquer justement à nos auditeurs qui peuvent ne pas connaître en fait votre histoire, sur ces deux filles, vous avez eu une fille qui est passée par cette maladie.
Oui, j'ai une fille qui a eu un cancer alors qu'elle avait 11 ans. Voilà, donc j'ai traversé tout ce que les familles qui sont frappées par ce genre de maladie peuvent traverser.
Donc en fait, quand la personne vous envoie cette dédicace, elle la dédie à votre fille qui a eu ce cancer.
Tout à fait. Et vraiment, ça a été un électrochoc. C'est-à-dire que je n'avais pas mesuré à quel point les frères et sœurs étaient complètement rejetés à la périphérie de l'imaginaire, on va dire ça comme ça plutôt. Et du coup, je suis allée un petit peu plus en avant, j'ai un peu interrogé autour de moi et je me suis rendu compte, d'une part, que la question des frères et des sœurs était complètement oubliée, négligée pour des tas de raisons sur le plan historique déjà, et que dès lors qu'une maladie grave intervient dans un espace familial, cette mise à l'écart qui n'est pas du tout volontaire, bien sûr, est quasi généralisée.
Exactement, et même en lisant votre livre, on se rend compte que finalement, pour les frères et sœurs, ça devient complètement naturel de se mettre totalement en retrait.
Oui, alors c'est l'un des éléments très importants de cette dynamique, à savoir que les frères et les sœurs qui se retrouvent complètement pris dans la tourmente, pour certains aspects, par exemple pendant la maladie, ils sont tenus à l'écart, par exemple des discussions entre les médecins et la famille, donc ils n'ont pas toute l'information, et quand on n'a pas toute l'information, ça ouvre la porte à un imaginaire qui peut être dévastateur. Et donc ils sont sommés, et à nouveau de façon involontaire, par la famille notamment, d'aller bien. Quand on a un frère ou une sœur qui est gravement malade ou qui est gravement handicapé, parce que les réactions sont assez proches, eh bien, on ne peut pas se permettre soi-même d'aller mal. Il n'y a pas la place pour ça. On ne peut pas se permettre d'avoir des émotions. Or, il se trouve que dans ce genre de circonstances, des émotions, on en a plein et elles sont très violentes. Ça peut être des émotions, la peur, l'inquiétude, la jalousie, l'agressivité envers celui qui occupe tout l'espace, que ce soit réellement ou bien dans l'imaginaire des parents. Donc toutes ces émotions-là, elles ne sont pas possibles, sinon ça déclenche un vrai sentiment de culpabilité. Donc elles sont refoulées. Et ça a fait partie d'ailleurs de la difficulté pour faire ce livre, à savoir qu'en travaillant avec ces jeunes, donc il y en a 12 dans Sortir de l'ombre, ça a fait remonter des choses. Et en même temps, ça pouvait être très violent parce que c'était des sentiments qui avaient été complètement absorbés, mis de côté, parfois pendant des années.
Votre livre, c'est un travail journalistique incroyable que vous avez fait, mais qui va au-delà effectivement d'un simple, entre guillemets, d'un simple travail journalistique, dans le sens où effectivement on sent derrière toute cette démarche bienveillante qui aide d'apporter des outils à travers ces différents éclairages, à la fois des jeunes ou moins jeunes qui témoignent en tant que fratrie et de ces spécialistes que vous êtes allés trouver. Vous êtes allés loin pour trouver aussi ces spécialistes, enfin pas que loin physiquement, mais vous êtes allés aussi loin en allant par exemple interviewer un historien. J'ai trouvé ça formidable.
Oui, mais c'était intéressant d'avoir une dimension aussi, de ne pas rester le nez collé sur le guidon. C'est-à-dire de voir comment, à travers l'histoire, la question de la fratrie s'est négociée, s'est mise en place. Et effectivement, Didier Lette, qui est un spécialiste de la question des frères et sœurs, et en particulier au cours du Moyen-Âge, apporte quelques éclairages très intéressants. Par exemple, le fait que dans les contes, on trouve très peu d'enfants malades. La maladie est quasiment inexistante dans les contes populaires. Et l'une des raisons qu'il avance, c'est que par exemple, il y avait tellement une mortalité tellement forte à certaines époques, c'était pas la peine d'en parler, mais ça faisait partie du quotidien, c'était intégré dans le normal de la vie.
Sur quelques éléments quand même que vous tirez de ces spécialistes, et le livre en foisonne, franchement j'invite toutes nos auditrices et nos auditeurs à se plonger dedans, parce que ce livre regorge de conseils, de ficelles qu'on peut tirer quand on se trouve confronté à cette situation. Moi j'étais étonnée de voir aussi qu'il y avait une différence entre les frères et les sœurs qui ne vivent pas l'expérience de la même façon, suivant si on est une fille ou un garçon.
Oui, alors ça, c'est l'un des éléments extrêmement intéressants dans ce que nous expliquent un peu ces spécialistes, dans leur expérience, dans ce qu'ils ont pu constater. Les filles ont tendance à tout intérioriser et à devenir des filles parfaites, des élèves parfaites, des personnes qui font aucun bruit. C'est ce que dit Florence, par exemple. Elle dit, j'avais compris que pour être aimée, il fallait que je me mette de côté, que je fasse pas de bruit, que je ne demande rien. Et elles ont tendance à devenir surprotectrices aussi par rapport à celui qui est malade, par exemple. Alors que les garçons vont réagir en faisant du bruit. Alors c'est par exemple ce que raconte David, qui va jusqu'à faire un casse dans un micro supermarché. Donc il est dans des conduites à risque, avec de la drogue, avec de l'alcool, avec des tas de choses comme ça. Mais ça va jusqu'où aller faire un casse dans un petit magasin. Et il le dit très très bien lui-même, j'avais besoin d'exister et de retrouver une place. Même si c'était dans le négatif, mais de retrouver cette place perdue parce que l'autre, donc son frère, qui a été malade, a occupé tout l'espace à la fois purement quotidien, parce que sa maladie a duré longtemps, mais pas simplement. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que quand on dit occuper toute la place, c'est aussi dans la tête des parents. C'est-à-dire que quel que soit ce que les parents essayent de faire pour rester présents à tous leurs enfants, pour s'en occuper le mieux possible en dépit de la charge que représente une maladie grave, quels que soient leurs efforts, dans leur tête, il y a quelque chose qui est fondamental, à savoir toute leur énergie, elle est concentrée sur cette nécessité de soit sauver l'enfant qui risque de mourir, soit accompagner le mieux possible celui qui est dans une souffrance apparente. Et du coup, à négliger un peu les souffrances qui sont beaucoup moins visibles, qui sont les souffrances de la fratrie. Et en plus de ça, il y a quelque chose de presque insupportable quand on a un enfant qui est malade ou qui est gravement handicapé, de se dire que les autres vont pas bien. C'est-à-dire qu'on a envie, et c'est un besoin légitime, hein, de se dire, bon d'accord, il y a un problème, mais le reste, ça va.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là encore élément très important qu'on trouve aussi dans votre livre, le mot qui est lâché par Jacques Lecomte, un docteur en psychologie, qui dit clairement les frères et sœurs, ce qui est important, c'est qu'ils soient reconnus comme victimes. C'est très fort.
Hein. Alors, je suis contente que vous releviez ça, parce que pour moi, c'est un peu, on va le dire en langage un peu journalistique, le scoop du livre. C'est-à-dire que, voilà, c'est là-dessus que j'ai interviewé Jacques Lecomte, parce que je l'avais entendu dans le cadre d'une conférence dire des choses qui m'ont vraiment beaucoup parlé. Je suis allée le trouver. Et cette analogie entre les enfants victimes de violences parentales et les fratries, sur le moment, je me suis dit, non, mais il exagère, quoi. Et en creusant le sujet avec lui, il apparaît qu'effectivement, c'est tout à fait légitime et c'est extrêmement intéressant, parce que ça donne aussi une piste pour aider les frères et sœurs. C'est-à-dire que ce qu'il explique, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît ce statut de victime, alors quand je dis « on », c'est aussi bien le corps médical que les parents que l'entourage, mais aussi que le frère ou la sœur lui-même, qui ne se reconnaît pas comme victime. C'est-à-dire, la victime, c'est l'autre, c'est celui qui est malade. Mais à partir du moment où on alors je ne vais pas dire on pose une étiquette parce que c'est pas adéquat, mais à partir du moment où il y a cette reconnaissance, alors les choses peuvent redémarrer, il y a une dynamique qui peut se remettre en place, il y a des énergies qui peuvent recommencer à circuler.
Et c'est vrai qu'on se rend compte que ce sont malheureusement les grands oubliés, en fait, ces frères et sœurs. Et même le milieu médical, je crois que c'est un oncologue hein, que vous interviewez, ou une oncologue, qui le dit, qui dit « mais on n'a pas le temps », quand elle parle des donneurs, me semble-t-il, on n'a pas le temps finalement de s'occuper du donneur.
Oui, alors ça c'est un peu le point commun que j'ai trouvé avec toutes les personnes du corps médical que j'ai interviewées ou avec qui j'ai discuté. Alors il y avait deux attitudes. La première c'est de dire on sait que c'est un problème mais on n'a absolument pas le temps et on ne dispose pas des structures adéquates pour vraiment prendre cette question sérieusement. Alors il y a des... pas exagérer non plus, mais il y a des hôpitaux qui ont des programmes un peu pour les frères et sœurs, qui ont des groupes de parole, enfin qui ont des tas de choses, mais ça reste de leur avis insuffisant. En tous les cas, il y a très peu de suivi dans la durée. Or, l'une des choses qui était aussi intéressante dans le travail que j'ai fait dans Sortir de l'ombre, c'est par exemple l'effet boomerang, c'est-à-dire que il y a un jeune homme qui a donné ses cellules à son frère, donc ça s'est très bien passé, il est très heureux, il se sent un super héros parce que grâce à lui, son frère est vivant, tout va bien, et puis tout d'un coup, quelques années plus tard, un matin, il ne peut pas se lever. Et ça dure un an, il fait une profonde dépression, et personne ne fait le lien entre le fait que cette dépression, elle est liée à tout son vécu par rapport à la maladie de son frère et que c'était pas possible d'exprimer quoi que ce soit le concernant tant que tout n'allait pas bien dans la famille. Donc une fois que les choses se calment, que la famille respire enfin un peu, que le frère est sorti d'affaire, à ce moment-là, il s'effondre. Et donc, pour revenir au corps médical, le suivi à long terme, alors là, pour le coup, il n'existe pas. Et quand vous parlez des greffes tout à l'heure, donc quand il y a la nécessité d'une greffe de moelle osseuse, on va d'abord chercher dans la famille et donc dans la fratrie s'il y a une compatibilité en termes de cellules souches. Alors quand ça arrive, il se passe un truc absolument terrible pour les frères et sœurs, c'est-à-dire que éloignés de l'histoire, en tous les cas dans l'espace médical dans un premier temps, tout d'un coup, à partir du moment où ils sont compatibles, ils deviennent le centre de l'attention de tout le monde. Et en plus, on pose sur eux une demande qui est très violente, hein, de donner un bout de son corps, même si les cellules, c'est quelque chose de très particulier, mais quand même, ça relève du don de soi. Donc pendant un temps comme ça, relativement court, tout d'un coup, tous les projecteurs sont braqués sur le frère ou la sœur compatible. Et à partir du moment où la greffe est faite, les projecteurs s'éteignent, mais de façon extrêmement brutale, parce que tout le monde est centré sur la nécessité de voir est-ce que la greffe prend, parce que celui qui est greffé pendant plusieurs semaines est vraiment en danger de mort. Donc que ce soit les parents ou que ce soit le corps médical, l'obsession c'est vraiment celui qui vient d'être greffé. Et le frère ou la sœur est laissé vraiment de côté avec toutes ses inquiétudes, avec toutes ses peurs, avec aussi son sentiment de culpabilité si jamais la greffe ne prend pas. C'est terrible, c'est absolument terrible.
Un immense merci à Muriel Sibilia pour la présentation de son livre « Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades » paru aux éditions genevoises Slatkin. Un livre dont les droits d'auteur sont reversés à la recherche sur les cancers de l'enfant via l'association Enfance et Cancer. Et un grand merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce magazine Rencontre.